J'avais toujours eu cette logique très entrepreneuriale de créer des projets. J'ai toujours été hyper animé par créer des choses. Et en fait, c'est vraiment le code et cette envie d'entrepreneur qui m'ont donné un vrai but à ne pas rater non plus complètement ma scolarité. Et j'avais fait le choix, au lieu de faire une école de commerce, qui était aussi une de mes options, de commencer par la tech, parce que c'était plus facilement accessible avec mon parcours académique. En fait, je pense que la principale composante, c'est le fait que j'avais pas peur de le faire. On va dire que si t'es pas hyper réactif de l'autre côté, les gens ont envie de partir. Et si t'as un côté qui est trop déséquilibré, t'as tout qui tombe.
Bienvenue sur le podcast Développeur Libre, dans lequel j'accueille chaque semaine une personne inspirante qui est devenue libre grâce au code. Alors bien sûr, on a chacun notre propre définition de la liberté, et c'est pour ça que dans ce podcast, je reçois aussi bien des entrepreneurs que des digital nomades qui parcourent le monde tout en travaillant, ou des salariés qui se sont construits petit à petit une vie sur mesure pour profiter pleinement et accomplir leurs objectifs en tout genre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean, le cofondateur et CTO de Brigade, une plateforme de mise en relation de travailleurs et d'entreprises dans le milieu médical et de la restauration. Avec ses cofondateurs, ils ont lancé la boîte il y a un peu plus de 5 ans. Et dans cet épisode, on va bien sûr parler du parcours de Jean, qui sort d'une école d'ingénieur et qui a directement lancé sa boîte sans vraiment passer par la case entreprise. Mais on parlera aussi de comment monter une marketplace, ou plus généralement une plateforme de mise en relation, et comment Brigade a fait face au Covid en faisant preuve de résilience et en imaginant des nouvelles solutions. Donc si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous donner un avis sur la plateforme que vous utilisez et à partager cet épisode. Et moi, en attendant, je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Jean. Salut Jean, merci d'avoir accepté l'invitation pour un nouvel épisode de ce podcast. Bah écoute, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet en te présentant, en nous expliquant un petit peu qui tu es et comment tu te définirais aujourd'hui.
Carrément. Eh bah, d'abord, bonjour Quentin, merci pour l'invitation. Ravi de pouvoir participer à ce podcast. Donc rapidement, moi c'est Jean, je suis cofondateur et CPO chez Brigade. Peut-être que certains auditeurs connaissent déjà, mais en fait, on a développé un agent pour les professionnels à leur compte dans les secteurs de l'hospitality et du healthcare. Donc, un agent, qu'est-ce que c'est pour ces secteurs-là et pour ces professionnels-là? Eh bien, en fait, c'est un service qui permet de faire grandir le réseau professionnel de ces travailleurs en leur proposant de nouvelles missions, en les aidant au quotidien, donc avec la gestion des paiements, des facturations, des contrats de prestation. Et en fait, on assure, au même titre qu'un agent de footballeur assure tout le quotidien d'un footballeur pour qu'il se concentre sur ses entraînements, sur ses matchs, sur sa carrière, et ben nous, on permet en fait à des professionnels à leur compte de se concentrer sur leur mission au quotidien et sur leur carrière en les aidant justement à évoluer, en ayant accès à de nouveaux métiers au gré de leurs différentes expériences qu'ils ont eues sur notre service, pour justement qu'ils se concentrent sur le plus important, que le reste, ça soit nous qui gérons pour eux. Et on a cette véritable volonté chez Brigade de valoriser le travail et le rendre accessible à tous. C'est ce qui est même la mission de l'entreprise, qui est tellement forte chez nous, qui a fait même partie de nos statuts d'entreprise. Et c'est ce qui nous drive avec mon associé Florent Malbranche depuis le tout début de la création. C'est finalement de rendre un peu les lettres de noblesse à tous ces professionnels de secteurs en flux tendu, de travailleurs sur des métiers que je qualifierais de non-digitaux en fin de compte, qui sont des métiers assez peu reconnus in fine, alors qu'ils sont hyper précieux, puisque en fin de compte, très souvent quand on va au restaurant, ben, en fait, on est au contact de ces gens-là. Quand on a un problème, moi j'ai eu un accident de scooter il y a 2 semaines, je suis allé aux urgences, rien de grave heureusement, mais quand bien même, et ben voilà, j'avais tous ces gens-là, que ce soit des aides-soignants, des infirmiers, des médecins qui m'ont aidé justement dans ce moment un petit peu compliqué. Et nous, on est là justement pour faire en sorte que toutes ces populations qui sont très souvent dans les métiers du quotidien et qui sont clés dans notre économie, et ben, ils puissent avoir eux aussi accès à des super conditions de travail qui allient à la fois liberté mais aussi sérénité et qui puissent se projeter sur une méthode alternative de travail par rapport à un CDI classique pour justement cocher toutes les cases de leur vie perso et de leur vie pro. Donc moi, Brigade, on l'a lancé il y a 6 ans maintenant avec mon associé. J'ai toujours, au début, j'ai eu les deux casquettes, CPO et CTO, parce que j'ai fait une école d'informatique qui s'appelle Epitech. Donc, j'avais un background technique qui était même nécessaire pour la création d'entreprise. J'ai une passion pour la tech depuis mon adolescence. Je suis rentré dans le code un peu par hasard. En fait, moi, je suis d'abord rentré dans l'informatique par le hardware, à manipuler des ordinateurs, etc. Je l'ai fait vraiment de façon un peu... par hasard, en réglant des problèmes que j'avais sur mon ordi, l'ordi que mes parents m'avaient offert quand j'étais ado, parce qu'ils en avaient marre que j'utilise le leur. et en fin de compte, petit à petit, à force de traîner sur des forums informatiques de hardware, et ben, je me suis posé la question d'en fait comment on crée un forum. Et c'est là où j'ai découvert le HTML, le PHP, le JavaScript. Et en fin de compte, tout mon focus qui était sur le hardware est passé sur la programmation. Mais j'avais toujours eu cette logique très entrepreneuriale de créer des projets. J'ai toujours été hyper animé par créer des choses. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, mes parents montaient des boîtes pendant 35 ans, des petites entreprises, ils ont fait des activités en freelance aussi à certains moments de leur vie. Et en fin de compte, c'était un peu la norme chez moi, c'était en fait créer des projets, avoir des idées, les lancer, ils vivent de ça. Et en fin de compte, moi, la programmation m'a toujours permis de créer en fait des choses. Donc j'avais cette double... on va dire ces deux passions qui étaient une de penser à des idées, à créer des choses un peu entrepreneuriales, à une toute petite échelle évidemment, et l'autre, en fait, comment ça fonctionne derrière et véritablement développer ça, apprendre de nouvelles technologies, etc. Donc moi, ça a vraiment été les deux choses qui étaient assez clés dans mon adolescence. C'était vraiment ces deux piliers-là. Et après, arrivé le choix des études supérieures. Alors moi, j'étais quelqu'un de pas du tout académique. Hein. Je pense que si j'avais pas eu d'objectifs très clairs dans ma vie, de passion, en fait, j'aurais peut-être même été déscolarisé à certains moments de ma vie. Et en fait, c'est vraiment le code et cette envie d'entrepreneur qui m'ont donné un vrai but à pas rater non plus complètement ma scolarité. Et au final, je suis arrivé chez Epitech. Et là, ça a été le déclic. Je suis passé d'un étudiant... d'un écolier médiocre à un étudiant hyper engagé dans ses études. Et en fin de compte, j'ai toujours eu cette idée entrepreneuriale qui était toujours dans le fond de ma tête. Et j'avais fait le choix, au lieu de faire une école de commerce, qui était aussi une de mes options, de commencer par la tech, parce que c'était plus facilement accessible avec mon parcours académique. Et en plus de ça, je m'étais dit, d'abord commencer par la tech, les hard skills, et l'entrepreneuriat viendra après, parce que c'est plus des choses qu'on peut apprendre sur le tard, et beaucoup de soft skills également. Et donc c'est comme ça un petit peu que mon histoire académique et début professionnel s'est créé. Et en fin de compte, Brigade, ça a été la boîte que j'ai co-lancée du coup, et qui a marqué mon stage de fin d'études. Donc moi, j'ai quasiment fait que ça. J'ai eu quelques expériences avant pendant mes études, parce que comme je payais mes études, je travaillais à côté, et ça m'a permis justement d'acquérir un peu d'autres compétences en complément de celles à Epitech, et aussi de me mesurer au monde du travail, qui est même si à Epitech on a une pédagogie qui est très orientée projet, orientée on se démerde, etc., il y a quand même plein de choses dans le monde de l'entreprise qu'on n'apprend pas à Epitech. Et du coup, les 2 ans que j'ai pu faire en part-time à côté de mes études ont été hyper, hyper importants dans mon début de carrière, justement pour avoir les armes nécessaires aussi pour monter une entreprise et avoir quelques knowledge importantes là-dessus. Et donc voilà, et donc Brigade, 5 ans et demi, j'ai eu les doubles casquettes CPO, CTO, parce que j'avais vraiment tout le leverage tech qui était qui l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui, une de mes passions. Et tout le côté entrepreneurial que je traduisais justement en quel est le produit, quelle est la proposition de valeur, quel est le service que l'on veut créer. Donc c'était vraiment comme ça que en fait mon rôle s'est défini assez naturellement quand on a fait l'association avec Florent. Et là, la boîte a énormément grandi, j'en parlerai peut-être un peu plus après. On est présent sur 2 pays, on est quasiment 100 dans l'entreprise, on a une communauté de plusieurs milliers de brigadeurs actifs chaque mois, une communauté aussi de milliers de business qui nous utilisent quotidiennement pour faire appel aux meilleurs professionnels à leur compte dans les secteurs de l'hospitality et du healthcare, donc restauration et tout ce qui est médico-social. Et du coup, maintenant, je focalise 100% sur le produit parce qu'on a une vision... qui est hyper forte pour justement changer le fonctionnement de ce monde du travail-là. On a une mission qui fait partie intégrante de notre ADN et encore une fois même de nos statuts d'entreprise. Et du coup, maintenant, je m'attelle à faire en sorte qu'on ait un produit qui soit à la hauteur de nos ambitions. Après avoir passé 5 ans et demi en tant que CTO et on a fait une super stack techno, on pourra en parler aussi un petit peu après si tu le souhaites, avec notamment un refactoring en entier de tout pendant le Covid, hein, parce que nous pendant le Covid on était que dans la restauration avant, on n'était pas encore dans la santé, et en fait on a perdu 80% de notre chiffre d'affaires du jour au lendemain, donc ça a été une gestion de crise inédite à gérer pour tous les directeurs d'entreprise, parce qu'on n'est plus simplement mon associé et moi, on a deux personnes qui nous ont rejoints au niveau C-level, un directeur des opérations, ancien d'Airbnb, et un directeur financier. Et du coup, tout à quatre, on a dû gérer cette période hyper inédite pour nous, et on en a profité aussi côté tech pour purger la dette technique qu'on avait accumulée pendant les 4 ans et quelques de vie de la boîte. Et du coup, après cette grande mission de refactoring pour faire en sorte que la tech, ça soit l'enabler de notre future croissance et de notre futur produit, de nos futures ambitions, il était temps pour moi, en fait, de me focaliser que sur une des deux parties, et la partie notamment la plus entrepreneuriale, qui est celle de construire le produit pour qu'on devienne leader du marché.
Ok, très bien. Pas mal de choses sur lesquelles on va pouvoir rebondir, super. Hyper intéressant d'avoir toute cette chronologie, on va dire, en tout cas, comment t'en es arrivé là, et surtout d'où ça vient. Pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. La première chose, c'est sur quand tu nous as dit que tes parents étaient aussi entrepreneurs. Selon toi, en quoi est-ce que ça a joué le fait que eux étaient déjà aussi entrepreneurs, et que c'est quand même quelque chose qui a de plus en plus la mode en ce moment, et par conséquent nombreux sont les profils qui découvrent l'entrepreneuriat un peu par eux-mêmes. Donc pour toi, en quoi ça a joué, et est-ce que justement ça t'a aidé sur certains points ou ça t'a freiné sur d'autres? Parce qu'on pourrait imaginer aussi que le fait que tes parents soient déjà, on va dire, dans le milieu entrepreneurial, tu penses être né, on va dire, avec des avantages, et du coup, ça te fait foncer, par exemple, droit dans le mur, j'en sais rien. Enfin, est-ce que pour toi, justement, ça a joué sur ton parcours, et en quoi?
En fait, je pense que la principale composante, c'est le fait que j'avais pas peur de le faire, dans le sens où en fait c'était pas quelque chose d'inédit. Tu vois, je n'ai pas une famille où j'avais deux personnes qui étaient dans un moule à travailler dans des grandes entreprises, etc. Et la peur du risque de se lancer tout seul. Moi, c'était quelque chose que j'ai vu et revu, donc en fait pour moi c'était un peu une norme, donc j'avais pas spécialement de crainte là-dessus. Je marque un temps de pause parce que on va juste fermer la porte. Voilà, comme ça tu pourras couper ça pour le montage. Donc voilà. Donc en fait, j'avais pas de crainte là-dessus et j'avais pas peur non plus de l'échec. Dans le sens où mes parents, ils ont testé plusieurs choses dans leur vie. Il y a des choses qui ont très bien marché, d'autres qui ont moins bien marché, d'autres qui n'ont pas marché du tout. Et en fait, c'était une composante ça aussi que j'avais bien compris, qui était que en fin de compte, l'entrepreneuriat, ça se résume pas à réussir une fois ou échouer. C'est une succession en fait d'aventures. Et avant tout, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie. Où moi, je sais que maintenant, déjà avant, je sentais que c'était dans les différents stages et même CDI que j'ai pu faire en parallèle de mes études. J'ai toujours senti un peu la... En fait, j'ai adoré être au contact d'entrepreneurs, mais et je me disais, en fait, c'est ce que je veux faire. Moi, je savais qu'en fait, j'étais encore jeune, j'étais étudiant, donc ça ne me dérangeait pas, mais je savais que je ne voulais pas la position que j'avais à l'époque. En tant que voilà, de faire partie d'une aventure mais qui n'était pas la mienne entre guillemets, c'était pas quelque chose qui me convenait.
D'accord.
Donc ça c'était aussi un... Après je pense que c'est un trait de caractère, je pense que c'est pas parce que tes parents sont entrepreneurs que tu vas forcément l'être, il y en a au contraire, ça n'a pas du tout les intéresser, ils ont d'autres passions dans la vie. Moi c'est tombé comme ça, j'ai eu un super attrait sur l'entrepreneuriat et en fait ça m'a plutôt réconforté en me disant que en fait voilà, c'est plutôt un mode de vie à la base, et je sais que moi, en tout cas, même post-brigade, je me dis pas, c'est bon, j'ai fait mon aventure entrepreneuriale, maintenant je vais leverage ça et je vais prendre un gros poste dans une grosse boîte. C'est pas du tout quelque chose qui m'excite. Je pense que moi, avant tout, ce qui m'intéresse énormément, c'est pas entreprendre pour entreprendre et peu importe le projet, le faire. C'est vraiment se donner une mission et l'atteindre. En fait, moi, il y a plein de boîtes que je vois qui sont hyper successful, même où on est client, etc. Et je me dis, c'est pas du tout des boîtes que j'aurais aimé créer parce qu'en fait, pour moi, c'est un super, c'est un super business, mais j'ai pas le côté un peu âme de la boîte où je me dis, bah, en fait, même dans les moments difficiles d'entrepreneuriat, en fait, la mission, elle est plus grande que toi et tu te dis, en fait, c'est une cause hyper noble. Et c'est ce qui te drive au quotidien. Nous, on est une boîte, on a eu, bon, je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails aujourd'hui, mais on a eu plein de coups durs, à chaque fois on est relevé, mais hein, parce qu'en fait, déjà, je pense qu'on est déjà très, très résilient et qu'on a vraiment cet aspect un peu entrepreneur et presque jusqu'au boutiste. Mais c'est aussi parce qu'en fait, on avait une mission où nous, on a des milliers de professionnels à leur compte qui comptent sur nous, et on a des... pour ceux qui connaissent, on a un NPS qui est au-dessus de 80, donc enfin, c'est absolument énorme dans le monde du Net Promoter Score. Et on a, je ne vais pas dire quotidiennement, mais quasiment quotidiennement, des feedbacks de notre communauté nous disant « En fait, vous avez changé ma vie parce que grâce à vous, j'ai complètement changé la façon de travailler. Je suis beaucoup plus libre, je gagne plus d'argent. et en plus de ça, j'ai plus d'évolution dans ma carrière parce qu'en fait, j'ai accès à un plus gros réseau d'entreprises qui me permettent d'apprendre de nouvelles choses, qui décuplent mes opportunités professionnelles. Et je fais des bons dans ma carrière en ayant une liberté au quotidien qui soit accrue, une sérénité accrue. Ça me permet de passer plus de temps avec ma famille, de moins galérer pendant les fins de mois, voire même d'augmenter mon pouvoir d'achat de façon assez forte. Et ça, c'est une mission qui est hyper galvanisante. Et c'est avant tout ça qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat. C'est pas créer quelque chose pour créer quelque chose, c'est créer quelque chose pour atteindre une mission. Un but qui est transcendant, quoi.
Ok. Et justement, en parlant de but, donc là, tu nous as bien effectivement fait comprendre que derrière Brigade, tu avais une vision, un objectif, un but. Comment ça t'est venu, ça ? Comment ça t'est venu, cette vision et cet objectif ? Parce que si j'ai bien compris, donc Brigade a commencé, a été créé il y a plus de 5 ans et vous ciblez dans un premier temps les restaurateurs, c'est ça ?
Ouais. Alors en fait... La genèse de l'histoire, ça a été un peu un constat de se dire, on était en 2015 et globalement, on pouvait tout commander avec son smartphone. Un VTC, une pizza, etc., etc. Et en fait, on s'est rendu compte pour des raisons personnelles, à chacun avec mon associé, qu'il y avait un véritable... problème dans l'industrie de la restauration qui était l'accès en fait à l'accès aux professionnels. Il y avait une sous-optimisation terrible entre l'offre et la demande, où il y avait des milliers de contrats, enfin des milliers de CDI, enfin des milliers d'emplois de façon plus large dans la restauration qui étaient non pourvus, et des gens qui cherchent du travail quotidiennement. Et on s'est dit, mais c'est quand même incroyable qu'à l'avènement de on peut tout commander en un clic. Bah, en B2C, il y a plein de choses, et en B2B, il n'y a rien. Et c'est là où est venue l'idée de faire en sorte de développer une solution qui permette de faire en sorte que les gens se rencontrent facilement via un outil numérique pour faire en sorte que les offres de travail soient pourvues plus facilement et faire en sorte que pour les professionnels de la restauration, ils aient accès à des opportunités très facilement. Parce qu'en fin de compte, les Indeed, LinkedIn et tous ces outils qui sont utilisés par des populations qui travaillent avec un ordinateur, en fait dans la restauration ça marche pas, et en fait on va être très vite sur des solutions assez anciennes, assez traditionnelles, ou même le bon coin. Et en fin de compte on s'est dit, c'est quand même dingue qu'il n'y a rien là-dessus. Et donc en fait c'est comme ça que c'est venu. Mais après il y a eu vraiment un an de test and learn où on a testé plein de choses. Alors, on a fait un job board hyper classique mais brandé restauration, ça nous a permis d'apprendre plein de choses. Et en fait, à la fin, il y a vraiment eu... En fait, plus on a approfondi la problématique du recrutement dans la restauration, plus en fait, on s'est rendu compte que le problème le plus quotidien pour les restaurateurs, c'était vraiment gérer le côté très dynamique de leur activité, où au final, ils ont toujours besoin d'un staff qui va matcher en fait leurs besoins. C'est pas statique, quoi. Il peut y avoir il fait beau alors qu'ils avaient prévu de la pluie, j'ouvre ma terrasse, j'ai besoin de 3 serveurs en plus, je les ai pas en CDI, je prends des extras. Donc en fait il y a vraiment une sorte de flux tendu systématique sur les besoins en termes de staff pour une activité dans la restauration ou dans l'événementiel. C'est hyper le cas avec les traiteurs, par exemple, où ils ont assez peu de CDI, parce qu'en fin de compte, en fonction de la typologie, de la taille des événements qu'ils vont devoir gérer, ils vont avoir besoin de plus ou moins de staff. Donc en fait, ils vont énormément fonctionner avec des extras. Et en fait, ça, c'est vraiment une pain qui était hyper récurrente, où il n'y avait pas de solution sur le marché. Et donc en fait, c'est là où on a recentré notre test and learn sur justement comment on fait en sorte de matcher les gens un peu on-demand, et on se rapprochait un peu de notre constat initial de dire c'est quand même dingue qu'il n'y a rien pour permettre de trouver du staff quand on a besoin. Et donc on a commencé comme ça, et c'est là où on a lancé donc le brigade que les gens connaissent depuis, qui était en fin de compte cette plateforme de mise en relation entre des professionnels des professionnels de ce secteur-là et des entreprises dans le besoin. Et en fin de compte, quand on a fait ça, on s'est de plus en plus rendu compte de la réalité de ce monde du travail-là, qui était justement un manque de valorisation de ces métiers, alors que ce sont des métiers essentiels, à la fois dans notre vie de tous les jours en tant que consommateur, et essentiels pour ces entreprises pour bien fonctionner. Et c'est pour ça, nous, le Covid, ça a été à la fois très dur et à la fois une énorme opportunité, parce qu'en fait, on s'est rendu compte de tous ces... alors, j'ai plus le terme exact qu'on disait là pendant le confinement, mais voilà, ces emplois de première ligne. En fait, nous, on s'était déjà rendu compte il y a très très longtemps qu'en fait, ça reposait beaucoup sur ces professionnels, et qu'en fin de compte, c'était eux le nerf de la guerre, et que tout notre ADN devait être autour de justement valoriser leur travail, leur redonner de la fierté, rendre le travail accessible à tous, parce que pareil, c'était très compliqué, il y avait... il y a aussi beaucoup de sujets autour de la discrimination, enfin voilà, il y a pas mal de problématiques sur le recrutement dans ces industries-là, et c'était comment on crée une solution vertueuse où les travailleurs ou les professionnels de cette industrie-là, en fait, ils te disent le système qu'ils me proposent, c'est un système qui révolutionne la façon de travailler, parce qu'en fait, si on a les top talents, et ben toutes les entreprises viendront. En fait, nous, on s'est vraiment dit ça. On s'est dit, le plus important, entre guillemets, c'est pas d'avoir les meilleures boîtes, les meilleures entreprises, les meilleurs restos, les meilleurs clients, restaurateurs, pardon. C'est d'avoir vraiment les meilleurs talents. Parce qu'en fait, tout le monde cherche les meilleurs talents, tout le monde galère à les trouver. Si on propose le bon outil, mais surtout la meilleure communauté, mais en fait, c'est bon. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on a très vite pris le parti de se dire, notre focus en termes d'ADN d'entreprise, ça doit être la communauté de brigadeurs. Ça doit être ces professionnels à leur compte, et les aider pour justement faire en sorte qu'ils soient fiers de leur carrière, en fin de compte, qu'ils retrouvent la fierté qu'ils avaient perdue de ces métiers-là, qui sont des métiers difficiles, avec les meilleures conditions de vie possibles, la meilleure stabilité possible, et conjuguer deux choses qui étaient très problématiques, il n'y avait pas de réponse à l'époque, qui étaient la liberté par rapport à sa vie personnelle, et la sécurité. Et c'était vraiment arrivé à proposer une nouvelle offre de travail qui permette de conjuguer ces deux souhaits. Et aucune de ces conditions. Et en fin de compte, c'était soit l'un, soit l'autre. C'était soit on avait un CDI, mais on avait les horaires qui étaient compliqués dans la restauration, donc compliqués pour avoir une vie de famille. Soit à l'inverse, on faisait que des extras, mais du coup, on était systématiquement en train de chercher de nouveaux clients. De galérer pour se faire payer parce que tout doit se faire manuellement avec des factures, des firmes, etc. etc. Mais ça nous permettait d'être maître de son emploi du temps. Et nous, on a apporté un peu le meilleur des deux mondes. C'est grâce à cette logique de création d'un agent pour les talents, de faire en sorte qu'ils vont avoir accès chaque jour à des opportunités sur leur téléphone de mission qui sont libres d'accepter ou non. Et on gère en fait tout pour eux, les flux de paiement, la génération des factures, des contrats de prestation, l'assurance, la mutuelle, le fait d'avoir accès à un support dédié pour résoudre leurs problématiques, pour les accompagner au quotidien. Et évidemment, et ça c'est je pense un des plus grands marqueurs de notre entreprise, c'est la capacité de grandir professionnellement en faisant en sorte que quand j'arrive chez Brigade et au début je vais accéder à des missions de serveur, et ben en fait je vais pouvoir leverage mon expérience de serveur accumulée pour avoir accès aux métiers qui sont dans un entre guillemets rang hiérarchique supérieur, donc chef de rang par exemple. Et ça c'est vraiment cette espèce de cercle vertueux qu'on veut créer, parce que si on crée un cercle vertueux pour les professionnels à leur compte, les entreprises, ça va créer aussi un cercle vertueux pour elles, et c'est comme ça qu'on a un modèle qui est qui est hyper vertueux pour tout le monde et qui crée de la rétention parce que justement on crée un équilibre qui est le plus parfait possible.
Ok, super. Bah écoute, hyper intéressant et en fait c'est très intéressant ce que tu nous dis parce que j'aimerais rebondir sur tu nous as dit que ce qui est très important pour vous c'est la communauté de brigadeurs. Là, on voit que vous avez une proposition de valeur très forte et au final votre produit, votre solution, alors je sais pas si on pourrait la définir comme une marketplace parce que là on parle d'humain, donc bon c'est peut-être pas le terme le plus adapté, mais en tout cas c'est une plateforme de mise en relation et qui dit plateforme de mise en relation dit au moins deux parties ou en tout cas au moins deux types d'utilisateurs. Comment est-ce que vous avez géré au début ce problème qui est un peu le problème de l'œuf et de la poule, qui est que je dois à la fois faire venir des entreprises pour qu'elles puissent trouver du personnel et en même temps faire venir du personnel pour qu'elles puissent trouver des entreprises qui sont prêtes à les accueillir. Comment est-ce que vous avez géré ce problème de deux parties de communauté à faire venir en même temps?
Ouais, alors ça, c'est une super problématique parce que c'est peu importe dans quel business tu fais, mais quand tu as un business qui gère deux audiences qui doivent s'en rencontrer, tu es systématiquement confronté à cette problématique-là. Il n'y a pas de silver bullet. En fait, on a testé tout. et en fait, les plus gros learnings qu'on en a ressortis, c'est il faut que la plateforme soit hyper liquide, c'est-à-dire qu'en fait, ça soit facile, en fait, qu'il n'y ait pas trop de demandes et pas trop d'offres, enfin, qu'il y ait le bon niveau. Mais c'est surtout, en fait, il faut que... En fait, quand tu vas, on va dire, investir pour augmenter la taille d'une des deux audiences, on va dire que si tu n'es pas hyper réactif de l'autre côté, les gens ont envie de partir. Donc, en fait, il faut vraiment que tu construises... en fait, c'est comme si tu construisais, je sais pas, des Mikado. et si tu as un côté qui est trop déséquilibré, tu as tout qui tombe.
D'accord.
Donc, en fait, nous, on a énormément itéré sur notre playbook, justement, de quand on lance des nouvelles villes, des nouveaux pays, des nouveaux marchés, parce qu'en fait, à chaque fois, tu redémarres de zéro, parce que nous, c'est de la rencontre d'audiences locales, donc qui sont dans une même zone géographique. Donc en fait, tout lancement de ville, tout lancement de nouveaux métiers, nouvelles industries plutôt, tu redémarres à zéro. Donc ça fait partie de l'intelligence opérationnelle de la boîte, c'est de savoir gérer ces situations-là. Mais ouais, c'est vraiment... c'est pas facile parce que si tu dis à plein de gens, plein de professionnels, venez chez moi, ça va être super, vous allez avoir accès à plein de nouvelles missions et qu'il n'y a pas de mission, ils vont désinstaller l'app. Si tu vas appeler plein de business en disant chez nous, vous allez avoir la meilleure des communautés, ça va être génial, on va vous aider à résoudre vos problèmes quotidiens de staff, ils arrivent, ils créent des missions et en fin de compte, il n'y a aucun freelance qui se positionne dessus parce qu'il n'y en a pas assez, ils vont dire leur service, ça ne marche pas, c'est quoi cette startup nulle, j'arrête là. Donc, c'est toujours un petit peu chicken and egg, comme on dit. Et en fait, le maître mot, c'est la rapidité parce qu'il faut vraiment créer les deux au même moment et toujours faire en sorte que les niveaux soient un peu bons pour le matching. Pour faire en sorte que derrière, après, ça fonctionne et tu puisses... en fait, tu prends ton silex, tu prends tes deux silex, tu fais en sorte d'avoir l'étincelle et dès que tu as le feu qui démarre, et après, c'est t'y vas avec le soufflet pour faire en sorte que tout ça grandisse, quoi.
Ouais, ok, d'accord. Et donc là, on voit effectivement que chez Brigade, il y a quand même beaucoup cet esprit, cet esprit startup, test and learn, de je teste, je vois si ça marche, si ça marche pas, ok, on voit comment on peut faire. Si ça marche, faut être très réactif pour capter l'étincelle. Est-ce que tu as des process, des process ou plutôt des méthodes, parce que c'est vrai que des process, c'est peut-être un peu trop spécifique au business, mais des méthodes pour mesurer justement le succès de quelque chose que vous allez tester. Comment est-ce que tu fais pour, une fois que tu as testé quelque chose, tu te dis ça marche et dans ce cas-là, on continue dans cette direction-là ou on fait développer le truc, ou au contraire, à quel moment tu te dis ok, on abandonne, là ça marche pas, il faut trouver une autre solution?
Je dirais que, et c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est toujours les deux choses qui sont l'analyse quantitative et l'analyse qualitative. Ça, je reprends un peu ma casquette product. Mais nous, en fait, dans le produit, évidemment, on teste des choses. En fait, nous, il y a une particularité, c'est qu'on n'utilise pas notre produit. Enfin, très, très peu. Parce que là, alors, on voulait le faire avant Covid, mais le Covid, c'est nous empêcher de le faire. Mais nous, on a à cœur, en fait, dans l'onboarding de tous les nouveaux employés qui rejoignent Brigade, d'utiliser justement la plateforme en faisant des missions bénévoles. Donc là, d'ailleurs, en ce moment même, on fait des missions avec la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, etc., pour passer un coup de main, notamment avec les fêtes de fin d'année qui se profilent. Et en fait, ça permet, indépendamment de faire un geste caritatif, ça permet d'utiliser notre produit. Et en fait, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir des feedbacks et que les gens qui sont là, développeurs, product manager, designer, market, sales, peu importe la position, ben, en fait, ils utilisent le produit comme un business, et plutôt comme un brigadeur, parce que c'est pas eux qui créent les missions en l'occurrence. Mais c'est hyper important. Et du coup, nous, on a cette particularité-là au quotidien, de ne pas utiliser notre produit. Donc, moi, il y a quelque chose que j'ai très, très vite dit aux équipes et qui faisait partie de la culture, un peu des principes produits, donc ce qu'on appelle les product principles. Très tôt, j'ai dit deux choses. J'ai dit, en fait, comme on n'utilise pas notre produit, il faut créer le produit avec nos utilisateurs. Donc ça, c'est toujours être très proche d'eux. C'est pour ça que très tôt, nous, on a ouvert un poste du UX Researcher dans l'équipe qui passait en fait son temps à prendre le feedback des utilisateurs sur des idées qu'on allait avoir, enfin des idées qu'on avait de futures fonctionnalités, et aussi après vérifier avec eux si ce qu'on a prévu de faire était cohérent par rapport à la problématique soulevée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait très rapidement, qu'on a mis très tôt en place et qui nous a permis justement d'avoir un taux de succès assez élevé sur le côté qualitatif. Après, sur le quanti, c'est assez, ça, c'est vraiment le béaba du product management, quoi. C'est toujours mesurer l'efficacité de ce que l'on fait avec du quanti et itérer là-dessus dans la mesure du possible. Et ça, c'est pareil, mais ça, c'est un peu une best practice du product de façon générale, que tu utilises ton produit ou pas, tu feras toujours ça.
Ouais, ok, d'accord. Ok, super. Et du coup, justement, tu nous as parlé d'un refactor énorme pendant le Covid et d'une certaine stack technique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus et surtout en quoi ça vous permet d'être réactif et justement, est-ce que vous mettez en place d'autres choses pour pouvoir être réactif après avoir testé et validé quelque chose?
Ouais, alors juste avant de répondre à ta question, je vais avoir une toute petite introduction sur cette thématique-là qui est c'est quoi le rôle de la tech chez Brigade? En fait, pour moi, quand tu fais une startup technologique, enfin tout projet technologique en fin de compte, la tech, elle va avoir, c'est le rôle d'enabler, quoi. C'est en fait, je fais en sorte que ça existe. Donc c'est le cœur du cœur du cœur. Et en fait, je vais vraiment simplifier, mais pour moi, il y a deux techs. Il y a la tech de rupture, où là, on est vraiment dans de la R&D pure et dure. Par exemple, j'ai pas d'exemple là, mais créer quelque chose que personne d'autre n'a créé d'un point de vue technologique, et c'est cette création qui est la proposition de valeur de son entreprise. Où là, pour moi, c'est un focus, c'est de la R&D, quoi, hein, pur et dur, technologique, au même titre qu'on pourrait avoir de la R&D sur de l'industriel, sur des sciences, sur plein de choses. Et après, sinon, pour moi, il y a la tech d'implémentation, où en fin de compte, on va plutôt être sur de l'architecture et des choix technologiques. Donc en fait, on va plutôt choisir parmi des solutions existantes lesquelles sont les plus pertinentes pour nous. Donc plutôt que de créer un truc from scratch où on est sur des besoins tellement spécifiques, tellement exclusifs qu'on va vraiment partir d'une feuille blanche, là on va plutôt se dire ok, là faut être smart parce qu'il faut se dire en fonction de nous ce que l'on souhaite faire dans le futur, quels vont être un peu les, je vais vraiment simplifier là, mais quels vont être un peu les bons outils. Donc la bonne stack de techno, la bonne architecture, etc., etc. Donc, en fait, moi, je me suis toujours attelé à ça, à me dire, dès lors qu'on est notre... En fait, pré-product market fit, j'étais en mode, en fait, on s'en fout parce qu'on entre guillemets, tant qu'on n'a pas validé que le produit qu'on teste est notre product market fit, il est éphémère. On va le tuer, on va créer autre chose. Donc, en fait, la tech, c'est... On va faire les choix technologiques pour nous permettre d'être le plus rapide possible à tester des idées qui peuvent être des candidats à un product market fit. Donc là, faut privilégier le no-code dans la mesure du possible. Il faut privilégier tout ce qui nous permet de maximiser son exécution, puisqu'en fin de compte, l'exécution, ça va se, ça va se, ça va se voir en termes de budget, en termes de moyens financiers. Et quand on est une startup, au début, on a très peu de moyens financiers, donc il faut être hyper efficace là-dessus. Après, une fois qu'on a atteint ce product market fit, là, il est temps de se dire, OK, maintenant, le paradigme n'est plus le même. Il faut regarder loin parce que maintenant, on va faire grandir quelque chose d'existant, quelque chose de naissant. Et donc là, il faut prendre des choix structurants. Mais après, c'est toujours un petit peu boule de cristal parce qu'en fait, on peut quand même pivoter, on peut quand même changer de stratégie, il peut se passer encore plein de choses. Donc, il ne faut pas non plus être ultra fermé et avoir une vision à 5 ans, enfin une stratégie à 5 ans hyper définie. Les choses vont aussi évoluer avec le temps et notamment avec le rythme des levées de fonds parce que c'est elles qui vont rythmer les phases de croissance dans l'entreprise. Donc, en fait, c'est un petit peu se dire, on va regarder plus loin. Mais il ne faut pas non plus regarder trop loin. Et par contre, il faut faire en sorte d'éviter de se piéger, de se retrouver dans des situations qui soient très pénibles. Nous, pour des raisons assez propres à la boîte en termes de levée de fonds et en termes de cycle de croissance où on a eu un peu du up and down, je ne vais pas dire du up and down, mais en fait, on a eu des retards engendrés par des problématiques de croissance. On a beaucoup privilégié le produit pendant un certain temps pour faire en sorte justement de unlock des nouveaux clients, bref, d'avancer sur vraiment l'aspect commercial croissance. Et en fait, on s'est retrouvé un petit peu à un moment le bec dans l'eau où en plus on était une équipe très jeune, quasiment que des gens sortis d'école. Donc en fait, on n'avait pas non plus de recul nécessaire, et moi le premier, sur en fait ça va être quoi les véritables besoins qui font sens par rapport au futur de l'entreprise. Et en définitive, on s'est retrouvé avec une stack full JavaScript qui était en théorie pas déconnante, mais qui était en pratique qui souffrait d'énormément de dettes techniques qui n'avaient pas été gérées à temps. Et du coup, en fin de compte, on a lancé donc en 2019 une réflexion sur ça devrait être quoi le futur de l'architecture technique et stack technologique chez Brigade par rapport à nos besoins qui commençaient. Enfin, ça faisait déjà 3 ans qu'on avait lancé la boîte. On était toujours sur un rythme de croissance 2x3 chaque année, donc croissance très forte, même si y a eu certaines embûches qu'on a dû gérer pour des raisons externes à notre volonté. On avait une croissance hyper forte, donc on avait toute confiance dans notre futur, dans notre succès, dans notre futur succès. Donc là, il était question justement de penser encore plus loin. Et c'est à ce moment-là où on est venu avec nos premières réflexions de quel devrait être le futur de la stack technique et l'architecture chez Brigade. Et en fin de compte, c'est à ce moment-là où le Covid assez rapidement est arrivé, parce que c'est arrivé début janvier 2020. Début d'année 2020. Et en fin de compte, c'était en plein là où on était en train de voir pour faire cohabiter roadmap produit, roadmap technique pour gérer un refactoring qu'on espérait le plus progressif possible, mais qui avance à bonne vitesse parce qu'en fait, la tech, elle est commencée à devenir le bottleneck de notre croissance. Et ça, c'est vraiment, en tant que CTO, le pire du pire. C'est que le jour où la tech est bottleneck de la croissance, ça veut dire qu'on a raté un ou deux, une ou deux chicanes. Donc là, c'était vraiment le moment où il fallait pas déconner et accepter qu'on ralentisse la voilure sur le développement produit qu'on avait beaucoup privilégié pour justement faire en sorte que la tech ne devienne pas le bottleneck de la croissance. Et là, coup du sort à la fois terrible à gérer, mais qui nous a pas mal aidé sur ce côté-là, c'est le Covid arrive, donc 80% de nos clients ferment, parce qu'on faisait aussi de la restauration collective en milieu médicaux, donc ça forcément, il y avait encore des bouches à nourrir, donc ça allait. Mais sinon, le reste était fermé. Et en fait, c'est là où on s'est dit, c'est une opportunité, faut la saisir. Donc en fait, on a eu de l'activité partielle, etc. Parce qu'encore une fois, on a été très, très... on avait vraiment eu le bec dans l'eau. Mais en fait, on a arrêté leur mode produit pendant quasiment un an et pour faire que de la tech. Et en fait, ce qui a été très agréable pour nous, c'est qu'en plus de cette roadmap produit qu'on avait complètement arrêtée au delta de quelques sujets qu'on voulait quand même prioriser pour des raisons spécifiques, en fait, on avait très peu d'utilisateurs qui utilisaient la plateforme. Donc, le niveau de risque de pousser des trucs en prod qui pourraient casser, franchement, c'est plus le même. Et en fin de compte, du coup, on a pris le parti d'aller au plus vite parce qu'on savait que la crise, elle n'avait pas non plus duré 10 ans. Donc, il fallait qu'avant que ça reparte, que le business reparte, il fallait qu'on ait fini ce refacto. Et du coup, on a pris la décision, en fin de compte, de réécrire notre produit avec cette nouvelle stack dans son entièreté parce que c'était le choix le plus risqué. Mais dans le contexte actuel, le risque était quand même vachement amoindri. mais c'était le plus rapide en termes de transition. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc ça a été un peu un, franchement ça a été un, enfin je pense que c'est très très, enfin c'est très très rare dans une boîte d'avoir ce type de situation. C'est même, je pense que ça arrive quasiment jamais. Mais ça a été hyper bien vécu du coup par l'équipe tech parce que c'était, il y avait très peu de contraintes. Et en octobre 2020, on a ship en prod 500 000 lignes de code, si je dis pas de bêtises, puis on a remplacé 2 millions avec toute notre produit réimplémenté. Et en fait, le maître mot de la stack technique, c'est, je reviens avec mon introduction, c'était de dire, on a créé en fait la tech pour nos besoins, et nous, notre besoin, c'est notre capacité d'itérer et d'améliorer notre produit de façon hyper rapide. Il peut y avoir, en fait, à chaque fois qu'on va faire des choix assez structurels de stack, d'architecture, il y aura toujours, en fait, c'est quoi les contraintes, c'est quoi les objectifs. Nous, en tant que marketplace, comme tu le disais, on a un produit qui est assez proche d'une marketplace, effectivement. Nous, en fait, on n'a pas des gros problématiques de volumétrie, ce qu'on a en B2B. Nous, on travaille justement avec des professionnels à leur compte, avec des entreprises. Donc, c'est des dizaines de milliers de personnes. Mais d'un point de vue tech, dizaines de milliers de personnes, même s'ils créent des missions, ils s'envoient des messages, ils font plein de trucs, ça va. C'est pas des milliards de personnes ou des millions de personnes. Donc, nous, on n'avait pas d'enjeu de gérer des énormes volumétries de requêtes, etc. Donc, en fait, c'était plutôt avoir une archi qui nous permette une vélocité maximum, parce qu'en tant que startup qui est sur un rythme de x3 chaque année, une des composantes de notre succès, c'est notre capacité à exécuter hyper rapidement. Et l'exécution, ça se fait à tous les niveaux, mais évidemment au niveau technologique, puisqu'en fait, la tech va être au centre déjà de l'implémentation du produit, mais aussi de tout le reste dans l'entreprise, que ce soit des besoins sales, market, opérationnels, avec des intégrations d'outils, avec des outillages en interne, avec de l'algorithmie, avec de l'automatisation, enfin avec plein de choses sur l'aspect financier aussi. En fait, énormément de choses reposent sur la tech, donc le but du jeu, c'est d'avoir la tech qui nous rende le plus fort possible, la plus grande vélocité possible, pour qu'on soit les meilleurs en exécution. Et du coup, on a divisé par 4 le nombre de lignes de code, mais c'est surtout qu'on a augmenté notre productivité. Enfin, ça a été le jour et la nuit. Il y avait des projets qu'on avait dans le roadmap pré-Covid qu'on prévoyait de faire en un an, avec différentes itérations, évidemment, parce qu'on ne va pas faire un cycle en V d'un an, mais on se disait, on va arriver à cette vision de ce projet-là au bout d'un an. Et en fait, on les faisait en 3 mois. Et ça, et ça, c'est vraiment un point hyper important, c'est investir dans sa tech, c'est à investir dans sa future croissance.
Ok, super. Donc effectivement, ouais, on voit bien que ce qui est important là, quand tu es face à un choix de stack technique, c'est pas se dire forcément quels sont les outils qui sont les plus optimisés en termes de performance, etc. Mais vraiment bien comprendre le besoin que vous avez et choisir les technologies adaptées, quoi. Et j'aimerais te poser une question qui n'est peut-être plus une question que tu te poses aujourd'hui, mais quand tu lances un produit, et plus particulièrement les premières versions d'un produit, donc en général, on est souvent sur un MVP, hein, un produit qui est très brut, avec très peu d'emballage, très peu de décoration autour. Comment tu gères en fait ce choix de la stack technique? Moi c'est une question que je me pose souvent parce que je fais du développement mobile natif et donc forcément quand on se pose la question de développer une nouvelle application mobile, quand on est face au développement d'une nouvelle application mobile, on se pose la question de savoir si on part sur du natif ou si on part sur du cross-platform. Comment est-ce que tu gères cette réflexion de te dire je vais partir sur des technologies qui peuvent me permettre peut-être d'aller plus vite, mais peut-être de créer un produit qui est de moins bonne qualité, ou au contraire, est-ce que j'essaye de créer un produit de bonne qualité, même de meilleure qualité possible, quitte à ce que ça me prenne du temps? Comment tu gères ce truc-là au début, sachant qu'au début, il faut aller le plus vite possible, mais pas non plus faire un produit qui soit bâclé, parce que sinon, tu fais du surplace et tu t'embourbes un peu dans la boue, quoi.
C'est là où moi c'était hyper agréable d'être à la fois CPO et CTO parce que je savais qu'est-ce que je voulais créer comme expérience et du coup je connaissais les tenants et les aboutissants côté tech et je pouvais prendre des décisions à la fois structurantes mais amener des trade-offs pour faire en sorte qu'on qu'on optimise un peu les deux. Alors, en fait, l'histoire, moi aussi, en fait, avant Brigade, j'avais fait beaucoup de développement mobile, iOS. Moi, j'ai connu la création du langage Swift. Et à ce moment-là, on faisait un refacto, on recrée une nouvelle app dans la boîte où j'étais avant. Et du coup, en fait, j'ai dit, bah, on va pas refaire le truc en Objective-C au moment où Swift sort, elle fait en Swift. Ouais. Alors, j'ai suivi tout le pot cassé d'un langage naissant et de tout l'outillage autour de cette technologie ultra naissant, donc c'était compliqué, mais au final c'était une décision très long terme. Voilà, donc en fait c'est pour tout ça pour dire que oui, effectivement, il faut prendre des décisions et arriver à trouver le bon trade-off. Nous, ce qu'on a fait chez Brigade, c'est que moi, la grande frustration que j'avais en tant que développeur dans le mobile, c'était de me dire, mais c'est quand même dingue, on fait la même app sur iOS, Android, mais vraiment, enfin, 99% c'est la même app, et on mutualise 0% de code. Et si on veut avoir une expérience la plus pure native possible. Et je trouvais ça dingue, et ça me rappelait un peu le développement web dans certaines années où, en fonction du browser qu'on utilisait, bah, en fait, c'était pas le même CSS, c'était pas le même JavaScript, voire même pas le même HTML. Et enfin, en tout cas, l'interopérabilité marchait vachement moins bien, et du coup, il y a beaucoup de codes spécifiques en fonction du browser, de l'OS et compagnie. Et ça, pareil, moi, c'était un truc qui m'a. Alors, avant que React Native existait, ou enfin, en tout cas, avant que React Native devienne populaire, j'avais même réfléchi en me disant, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une sorte de core en C++ et après faire de l'interopérabilité pour les environnements Android, les environnements iOS. Mais j'avais jamais digué là-dedans, mais c'était déjà quelque chose qui m'intéressait beaucoup à l'époque, avant qu'on crée Brigade. Et en fait, avec Brigade, on a commencé par faire que du SMS au début, parce qu'encore une fois, on était hyper itératif, plutôt que de créer une application mobile avec des push notifications, bah en fait, le plus rapide, c'était de faire des SMS, donc on a fait ça. Et bon, à la fin, il fallait quand même qu'on fasse une appli mobile, parce que faire un service par SMS, t'es hyper limité dans l'expérience. Et en fait, donc on était en 2017 à ce moment-là, donc il est question de faire une appli mobile. Moi, venant du mobile, avec un vrai souci du détail, des choses bien faites et des belles interfaces, je voulais faire le truc de façon intelligente. Et on avait la contrainte qu'on s'était fixée aussi, qui était de se dire, on est encore trop immature sur notre business pour savoir si ça sera un business 100% web, 100% mobile ou 50-50 les deux. Donc en fait, je voulais que tout ce qu'on fasse sur le produit marche sur le web et le mobile. Et donc, ce qu'on a décidé de faire à l'époque, c'était qu'on avait tous les développements de fonctionnalités, on les faisait sur le web en React.js, avec Redux d'ailleurs à l'époque. Parce que maintenant, on est sur Apollo et GraphQL. On a dégagé toute cette stack-là avec Redux. Et en fait, ce que j'avais dit, c'était que moi, je voulais pas qu'on fasse de l'app avec du Ionic et ce genre de choses, parce qu'en fait, on allait s'enfermer dans des technologies de WebView et avec une expérience proposée par ces technologies-là qui me convenait pas. Moi, je voulais en fait, nous, on est une marketplace B2B. Enfin, on a un produit B2B, mais je voulais vraiment qu'en termes de qualité d'interface et de qualité d'expérience, on soit sur un produit B2C. Je voulais pas qu'on fasse un truc moche. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, c'était, en fait, on veut créer le Airbnb de notre industrie, pas le HomeAway. Donc, désolé pour HomeAway, mais voilà, on veut que, en tant que leader, on veut aussi proposer l'expérience leader et même qu'en termes de visuel, d'aspect visuel, on voit qu'en fait, on est le capitaine d'industrie, entre guillemets. Il a été question du choix technologique. Donc, ce qu'on a fait, c'est que moi j'avais dit on va partir sur une base de React Native pour gérer tout le socle natif des applications. Comme ça, déjà, on fait du cross-platform. Et après, toutes les fonctionnalités, pour l'instant, on va encapsuler dans des WebView ce qu'on a fait en React.js. Comme ça nous permet d'avoir un socle sain par rapport à ce qu'on veut faire dans le futur. Mais on n'a pas besoin de redévelopper en natif toutes les pages parce que ça ferait un doublon en termes de code. Et en gros, moi, la condition que j'avais fixée à l'époque, c'était de dire, tant qu'on n'a pas suffisamment de maturité technique pour faire de la mutualisation de code entre le web et le natif, on ne fait pas de transition d'écran du web au natif. Mais on a toujours ce socle-là qui est réutilisable. Alors évidemment, ce socle-là, on l'a refactoré. Enfin, il s'est passé plein de choses, évidemment. Mais en tout cas, l'ADN technologique sur le mobile était ancré, qui était de dire, socle natif, React Native pour justement gérer un futur cross-platform. Et pour l'instant, on encapsule tout dans du web qu'on a fait en React.js. Et on a dû gérer du coup cette couche d'interopérabilité entre partie native et partie web, où il y a eu pas mal de R&D dessus. Nous, notre lead développeur mobile faisait même enfin, était même très proche de la core team React Native chez Facebook parce que on avait une très grosse utilisation des WebView en React Native. Je pense qu'on était même à un moment une des boîtes qui utilisait plus le plus de façon avancée les WebView. Donc on a même, enfin, Thibaut a même été core contributeur React Native pendant une période justement sur tous ces sujets-là autour de la WebView parce qu'il manquait plein de fonctionnalités liées au fonctionnement des WebView avec React Native. Donc ça, on a poussé le bouchon très très loin. Et en fait, justement, dans ce fameux refacto qu'on a fait en 2019-2020, il a été cette question justement dans un souci d'efficacité et pour voir pour maximiser notre production de faire en sorte d'avoir de la compatibilité entre web et mobile, enfin de la réutilisation de code pardon entre web et mobile. Donc en fait on a fait un Dyeng System cross-platform in-house qu'on a créé from scratch où en fait on a créé tout notre Dyeng System qui derrière fonctionne sur le web en React.js, en natif en React Native. Et pour justement avoir une visualisation de qu'est-ce qu'on fait avec le Dyeng System, on a utilisé React Native for the Web pour faire en sorte qu'on ait un playground qui nous permet de voir, en fait, quand j'utilise ces balises-là du Dyeng System, sur le mobile, ça fera ça, et sur le web, ça fait ça. Donc, ça a été, pareil, un énorme ça a été un des très gros chantiers de ce refacto. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on a réécrit tout notre front-end web avec ce Dyeng System-là, parce qu'en fin de compte, tout le code qui était toujours encapsulé dans une WebView, en fin de compte, il était quasiment prêt. C'était quasiment du code qu'on pouvait aussi déployer en natif sur les applications mobiles. Et une fois qu'on aura fait d'abord tout ce front-là, côté web, pour éviter de se taper la double peine de gérer deux prods en parallèle, une web, une native, comme on faisait déjà un énorme refacto, on s'est dit pour l'instant, on fait que du web, toujours en WebView. Mais en tout cas, le code qu'on fait, c'est du code qu'on va réutiliser à 80% pour les applis mobiles. Et maintenant, dans un cycle beaucoup plus itératif, on est en train de switcher tous nos écrans du web au natif en réutilisant énormément de code qui est déjà en prod pour le web grâce à ce design system qui nous permet de mutualiser du code, évidemment toutes les couches networking, mais toutes les couches aussi des gros blocs UX UI justement qui sont au sein de ce design system cross-platform. Donc en fait, si tu veux, ça a été une vision long terme qu'on a agrémentée au fur et à mesure de la maturité de la boîte avec des stratégies différentes pour arriver à cette vision qu'on a aujourd'hui, qui est de dire si on veut faire du web et du mobile avec un produit très similaire, et on est capable d'avoir une utilisation de code la plus optimisée possible, et ce qui nous permet d'avoir une équipe front-end qui gère web mobile, mobile natif, et d'avoir une vélocité hyper forte.
Ok, super. Top, mais c'est hyper intéressant tout ça parce qu'on voit que il y a beaucoup de chantiers. Alors ce terme est peut-être un petit peu péjoratif, mais il y a beaucoup de choses en construction et en constante amélioration chez Brigade. Donc ça, c'est hyper intéressant. On arrive bientôt à la fin de cet épisode et j'aimerais te poser une question peut-être un petit peu plus personnelle. En fait, tout ça, là, tout ce dont on vient de discuter et de ton rôle chez Brigade et des différentes missions que vous avez, ça me fait poser une question en fait, qui est comment est-ce que toi, personnellement, tu gères le doute ? Comment est-ce que tu fais quand vous êtes en train de développer une nouvelle fonctionnalité ou de faire un gros refacto comme celui du Covid ? Comment est-ce que toi, personnellement, tu gères cette pression constante de te dire peut-être que, vu les projets qu'on est en train de mettre en place, les fonctionnalités qu'on est en train d'ajouter, ça risque de d'éclater en éclats, ou alors on risque d'avoir de plus en plus d'insatisfaction, ou justement, on doit toujours aller chercher à améliorer ce produit-là. Comment est-ce que tu gères le doute et la peur un peu de l'échec, au final ?
La peur de les... En fait, je pense qu'il faut... moi, c'est ce que je dis assez souvent, c'est faut toujours backer nos hypothèses avec de la data, que ce soit de la data quanti ou quali, quand on veut tester des choses. Après, le doute de façon plus globale sur le réussite ou l'échec de cette entreprise, en fait, c'est un peu la vie entrepreneuriale, quoi. Y a pas... Enfin, moi, en plus, pour presque philosophique, mais moi, moi, c'est vraiment avant tout ce que j'aime, c'est créer une mission, c'est créer une entreprise avec une mission, c'est se donner une mission et créer une entreprise autour de cette mission-là. Mais je, à titre personnel, j'ai pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de toute cette phase un peu de création. Et quand, entre guillemets, la boîte arrive en stratosphère, et qu'elle commence à se mettre en orbite, bah en fait, c'est bon, la boîte est safe, et bah, elle risque plus de se planter, de se crasher. Et en fait, moi, la mission individuelle, personnelle que je me donne dans cette mission entrepreneuriale, c'est de faire en sorte que la boîte atteigne ce niveau-là. Ouais. Après, derrière, moi, j'ai fait en sorte qu'elle décolle de la Terre et qu'elle soit en orbite, donc il n'y a plus de risque qu'elle s'effondre sur la Terre. Mais après, les gens qui vont la faire aller sur la Lune, sur Mars, jusqu'à Pluton, bah, en fait, il y aura des gens bien plus intelligents que moi et bien plus... animé par ces missions-là et ces challenges-là que moi, parce que, en fait, plus ta boîte est grandie, plus ton rôle de C-level exécutive, ça devient un rôle qui va prendre le pas par rapport au côté entrepreneurial, et c'est tout à fait normal. Moi, avant tout, je suis entrepreneur avant d'être CPO, CTO. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment faire ça. Donc, en fait, le doute, moi, c'est une composante qui me va très bien parce que c'est le béaba de l'entrepreneuriat. Et au contraire, c'est plutôt moi quand quelque chose en fait a un plan hyper défini, que c'est safe et qu'on va y aller, c'est vraiment où je me dis bah en fait c'est bon, enfin entre guillemets j'ai fait ma mission et j'ai plutôt aller faire autre chose parce que en plus c'est pas forcément là où j'excelle. Je pense que je suis quelqu'un de très structuré et qui aime bien voir, enfin qui a une vision assez systémique des choses. Donc je dis pas que je suis non plus nul en tant qu'exécutive, mais en tout cas en termes de purement passion, en termes de drive, moi je m'éclate beaucoup plus à réfléchir à comment craquer des marchés plutôt que de dire bon bah en fait j'ai fait le 0 to 1 et enfin le 0 to 10 et maintenant à faire le 10 to 50 et après à faire le 50 to 100. Moi ce qui va m'intéresser c'est de faire en sorte que bah voilà, la boîte, on a 200, 300 employés, 400 employés, j'en sais rien. On a une communauté de 100 000 brigadeurs, j'en sais rien. Enfin, je dis n'importe quoi. On est sur 10 pays, on est leader européen. En fait, on est dans un super track pour devenir leader mondial. Moi, ça sera le moment où je me dirais, c'est super. En fait, il y a des gens plus intelligents que moi, plus forts que moi, qui ont plus d'expérience, qui vont permettre de faire monter la boîte au créneau d'après. Moi, toujours garder une stature cofondateur pour justement... faire en sorte que apporter tout le savoir, tout le knowledge et un peu tout ce que je peux en termes de connaissances, d'énergie, de feedback, de plein de choses. Donc, c'est pour répondre à ton point sur le doute. En fait, moi, c'est une composante qui me va très bien parce qu'en fait, c'est ce que, entre guillemets, ce que je recherche aussi, c'est ce qui, je trouve, le plus passionnant, galvanisant. Après, quand tout va bien, entre guillemets, il y a des gens qui sont en mer que moi pour gérer le tout va bien et on va le faire en sorte que tout aille très, 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 très bien. Donc voilà.
Ok, super. Bah écoute, merci Jean pour cet échange, c'était hyper intéressant. C'est vrai qu'on aurait pu discuter encore pendant pas mal de temps comme ça sur ce type de sujet. J'aimerais terminer avec deux questions que j'ai l'habitude de poser aux invités de ce podcast. La première, c'est est-ce que tu aurais une ressource particulière que tu aimerais partager aux auditeurs ? Alors ça peut être un livre, un site web, une série, un podcast, une appli, peu importe. Mais voilà, quelque chose qui t'inspire, toi, et que t'aimerais partager avec les auditeurs.
Moi, il y a un livre que j'ai lu il y a longtemps, que je trouvais hyper intéressant, parce qu'en fait, il y avait pas mal de choses que j'avais, de par mon parcours et les premières années d'entrepreneuriat, assimilées, mais qui ont été écrites noir sur blanc et qui ont été évidemment bien plus poussées, parce que mon expérience était encore plus petite que qu'aujourd'hui. Quand j'ai lu ce livre-là, c'est le Blitzscaling de Reid Hoffman, qui est un peu justement, je dirais, un peu un livre qui vraiment fait un peu, je peux dire un wake-up call, mais qui explique vraiment c'est quoi en fait quand on crée une startup. C'est quoi le mindset, c'est comment ça fonctionne. Et franchement, c'est avec énormément d'anecdotes sur des créations de boîtes comme PayPal, qui sont des succès mondiaux maintenant, et en fait de découvrir un peu aussi la genèse de ces histoires-là. Donc c'est vraiment un livre que je recommande parce que c'est très vrai ce qu'ils disent et en plus ça permet vraiment de comprendre c'est quoi la mission d'un entrepreneur de startup technologique. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je recommande à toutes les personnes qui montent des boîtes autour de moi et qui cherchent justement un peu des conseils pour les premières étapes. C'est vraiment un bouquin qui quand on n'a pas fait ça, enfin qu'on n'a pas déjà monté une boîte avant, bah ça permet vraiment de s'armer des bonnes idées, des bons concepts. Pour réussir.
Ok, super. Bah écoute, je mettrai le lien de cette ressource dans les notes de l'épisode. Et deuxième question, est-ce que tu aurais une ou deux personnes que tu connais personnellement ou pas, que tu souhaiterais entendre interviewer sur ce podcast ?
Ouais, ça fait la paire avec un autre sujet qu'on n'a pas, peut-être qu'on en parlera un prochain podcast, qui est comment, en tant que CTO, CPO, entrepreneur, enfin bref, C-level, comment tu gères ta croissance personnelle avec la croissance de ta boîte, hein, pour faire en sorte de toujours avoir un coup d'avance par rapport aux besoins de ton entreprise, pour pas que toi, tu sois un bottleneck de la réussite de ta boîte, quand c'est ta première boîte. Et ben moi, ça a été fait par du réseau et avoir un peu des mentors qui m'ont vachement aidé dans mes idées, comment préparer, enfin comment gérer des sujets organisationnels, des choix technologiques, enfin bref, tout le rôle d'un C-level, peu importe c'est quoi, C-level de quoi, mais d'un C-level. Alors moi j'ai deux personnes qui m'ont pas mal aidé au début de la boîte. La première c'est Francis Napez, donc cofondateur et ex-CTO de Blablacar, qui maintenant est général manager de Hectare, le plus grand campus et incubateur du monde sur tout ce qui est agriculture. Alors, ça m'étonnerait qu'il ait du temps à faire des podcasts tech parce que je sais qu'il est extrêmement occupé avec la création de cette nouvelle boîte. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. On s'est énormément entendu au début parce qu'on avait la même philosophie du rôle de CTO dans une startup early stage. Donc, j'ai vraiment eu la chance de le côtoyer plusieurs fois et de faire partie d'être un des premiers membres du club qu'il a créé. Alors, je ne sais plus en quelle année d'ailleurs, TechRocks, parce qu'il y a la communauté Slack et il y avait un club qu'ils ont créé avant la communauté Slack d'ailleurs. Et j'en ai fait partie très tôt et ça m'a permis de rencontrer plein d'autres CTO, de start-up, mais aussi de grands groupes et avoir des échanges hyper enrichissants. Et la deuxième personne, c'est Sylvain Hutard, hein, qui était l'ancien VP Engineering de Algolia, qui ensuite a été après General Manager d'un produit d'intelligence artificielle chez Algolia et qui a rejoint une nouvelle boîte que on a beaucoup entendu parler parce que je crois qu'ils ont battu un record de levée de fonds, c'est Sorare. Et il a rejoint en tant que Head of Engineering et c'est quelqu'un de hyper inspirant. Pareil, j'ai beaucoup, beaucoup échangé avec lui et je pense qu'il pourrait apporter beaucoup de super knowledge dans ce podcast là.
Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup pour ces recommandations. Dernière petite question, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur Internet, sur un site que tu aimerais partager et qu'on pourrait mettre dans les notes de l'épisode?
Alors moi, en fait, c'est drôle parce que je suis pas très réseau sociaux, alors que je viens du produit et de la tech et que j'ai bossé dans des boîtes B2C, même dans un réseau social avant. Ah, mais à titre perso, j'aime pas ça, donc j'ai rien. À part LinkedIn, donc et en fin de compte, c'est vraiment le seul médium sur Internet où je communique de façon publique. Donc LinkedIn. On peut me retrouver sur LinkedIn et je partage beaucoup d'actualités. De la boîte, les différents succès des équipes, plus plein de choses qui se passent aux brigades. J'ai aussi en tête d'écrire des articles pour justement relater de plusieurs choses dont j'ai commencé à parler pendant ce podcast-là, de faire des articles un peu plus longs quand j'aurai un peu de temps pour faire ça dans les prochains mois, notamment sur LinkedIn, parce que je faisais ça aussi avant sur Medium, mais je préfère tout mettre sur une seule et même plateforme. Je trouve ça plus efficace, donc la suite sera sur LinkedIn.
Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Jean pour toutes ces informations, pour ce partage d'expériences très inspirant. Peut-être à bientôt hein, pour un deuxième épisode et puis pour voir comment toi personnellement t'as évolué et comment Brigade aussi a évolué. En tout cas, je mettrai toutes les notes des ressources et de Brigade également, enfin le site de Brigade dans les notes de l'épisode. Et puis peut-être à bientôt et encore merci à toi.
Eh ben, merci pour l'invitation et au plaisir, sait-on jamais, de se refaire un autre épisode dans le futur. Ben, merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont écouté et apprécié ce podcast. S'il y a des gens d'ailleurs qui souhaitent approfondir des sujets avec moi, ils peuvent m'envoyer un message sur LinkedIn. Je les lis pas toujours, mais je ferai l'effort. entre deux démarchages commerciaux sur LinkedIn, peut-être. Voilà, en tout cas, j'aime bien aider les gens dans la mesure du possible et de mon emploi du temps. Mais j'ai toujours, enfin, on m'a beaucoup aidé au début, donc j'aime rendre l'appareil. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent, à l'issue de ce podcast, approfondir des sujets, ce serait avec grand plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que la discussion vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage et sur vos réseaux sociaux. Ça nous aide à faire connaître le podcast et à inviter encore plus de profils inspirants. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, ou si vous-même vous êtes intéressé pour venir parler de votre expérience de développeur libre sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter à contact@developpeurlibre.com. En tout cas, merci encore, et moi je vous dis à la semaine prochaine.